Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors après cette semaine de vacances, que j'espère a été bonne pour vous, nous revoilà donc dans votre émission. Et aujourd'hui, je reçois Emmanuel Urien. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Claire.
Qui vient nous parler de son premier roman, et lui quatrième livre, mais premier roman, après trois recueils de nouvelles, intitulé « Tu devrais voir quelqu'un » et c'est édité chez Gallimard. On en parle dans un instant. Mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos pour vous dire que ce soir à Decazeville, à 18h30, le vernissage de l'expo des planches originales de Welcome to America, l'album du dessinateur Pierre Druil, qui était venu nous en parler d'ailleurs au mois de mars dernier à Page. Et puis l'expo durera jusqu'au 14 novembre et le lieu c'est la galerie Segala à Decazeville. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes dans les parages. Ensuite, demain, vendredi 6 novembre à 15h, au rayon BD de la librairie Gisbert, rue du Thor à Toulouse, décidément on est dans la bande dessinée, une rencontre avec Emmanuel Moineau pour son album de bande dessinée intitulé « Nestor Burma et l'envahissant cadavre de la plaine Monceau » aux éditions Casterman. Donc pour les amateurs de Nestor Burma, je pense que ça peut être très sympa de voir Nestor sur des planches, voilà, sur des dessins dans un album de BD. Ensuite, le prochain atelier d'écriture du dimanche, animé par Hélène Dufault, qui est auteure de notre région d'ailleurs, eh bien, ce sera le dimanche 8 novembre de 10h à 17h, 20 rue Figeac, quartier des Minimes. Donc il faut prévoir son repas de midi. Et c'est une écriture de fiction qui vous sera proposée, un travail en groupe. Donc pour les réservations, puisqu'il faut réserver bien sûr, je vous donne le numéro, c'est le 06 70 22 02 99, c'est le numéro personnel d'Hélène Dufault qui organise donc cet atelier d'écriture. Ensuite, je vous rappelle qu'au mois de novembre aura lieu le salon du livre Vivons Livre, le samedi 14 et le dimanche 15. Donc à cette occasion, il y aura beaucoup d'écrivains de la région. Emmanuel, tu ne seras pas. Voilà, mais il y en aura d'autres, donc je vous propose de vous en parler plus, avec de plus amples détails la semaine prochaine, mais simplement pour vous dire que dans le cadre donc du Salon du Livre, aura lieu le dernier volet de la manifestation Lettres Ouvertes, et ça sera le... Je vais le trouver, je vais trouver le jour et l'heure... oui, alors c'est animé par le philosophe et auteur Vincent Delecroix et le directeur de la collection L'un et l'autre, eh bien de Gallimard justement, qui s'appelle Jean-Bertrand Pontalis. Et donc ça sera samedi 14 novembre à 15h au centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse. Et donc comme je vous le disais, c'est dans le cadre du Salon du Livre qui aura lieu tout le week-end, le samedi et le dimanche. Voilà, et puis je terminerai cette page info avec le festival de BD, décidément la BD, on en parle ce matin. Le festival de BD à Colomiers, le 20, 21 et 22 novembre prochain. C'est la 23e édition de ce festival consacré donc à la BD sous toutes ses formes, les plus diverses et les plus originales, avec du dessin contemporain, du cinéma, une exposition de rue, des conférences, des spectacles, du jazz, un espace multimédia, des rencontres avec bien sûr les auteurs et les dessinateurs, et puis même des cours, un cours de manga collectif et des ateliers d'initiation au manga. Donc pour tout renseignement, je vous invite à vous rendre sur le site www.bdcolomiers.com. Et pour vous dire que c'est le métro ligne A jusqu'aux arènes et après le bus 64 pour vous y rendre. Et sera présent à ce festival BD, justement, on en parle encore, eh bien, ça sera Pierre Druil pour son album Welcome to America. Donc, il sera présent à Colomiers le 20, 21 et 22 novembre prochain. Voilà.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupitou. Merci à Alex, mon technicien préféré. Ensuite, alors, nous allons parler donc de ce premier roman. Emmanuel, tu devrais voir quelqu'un. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, mais bon, comme tu es déjà venu pour les trois autres recueils, on va juste rappeler un petit peu eh bien, qui est Emmanuel Urien. Donc, tu es originaire d'Angers.
Oui.
Voilà, toulousaine d'adoption depuis...
Ça fera bientôt 10 ans.
Ah voilà, bientôt 10 ans.
Adoption de longue date.
Voilà, tu es une maman.
Oui.
Également, voilà. Tu as beaucoup voyagé, Moscou, Allemagne.
Oui, pas depuis quelques années, mais...
Bah, avec les enfants, c'est un petit peu difficile, c'est sûr, c'est moins pratique.
Oui, voilà, on va dire, il y a maintenant plus de 10 ans, j'ai pas mal voyagé.
Voilà, donc ça ouvre des horizons et de rencontrer des gens et des contrées... différentes.
Oui.
Des longues études avec notamment des chiffres et des langues vivantes. Alors, langues vivantes, bon, ça, voilà. Et des chiffres, alors, pas trop de rapport avec...
Non, je crois que c'était une espèce de concours de circonstances un peu malencontreux. Enfin, bon, maintenant, je regrette pas, mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça?
Ah, et oui, puis, les chiffres...
Puis j'en suis sortie, donc ça va.
Bon, ça va. Et donc, c'est un... donc, tu as toujours aimé lire et écrire depuis toute petite.
Je suis tombée dedans, oui.
Voilà, voilà comme Obélix dans la marmite, t'es voilà. Tombée dans le... Et donc, tu as commencé vraiment à écrire, enfin à te lancer dans l'écriture en 2002, en fait.
Oui, j'écrivais déjà beaucoup avant, mais le fait de travailler, déjà d'avoir un vrai métier, comme on dit, avec des horaires, etc., ça faisait que l'écriture était passée un peu au second plan. Et voilà... Le fait de venir habiter à Toulouse ensuite et de quitter ce travail que j'avais auparavant m'a donné un petit peu plus de temps. Et là, je me suis vraiment mise en 2002 à peu près, effectivement, à écrire de manière un peu plus intensive.
Intensive, puis avec sûrement le souhait d'être publié, quoi, d'être lu.
Oui, au
par,
bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, oui, on ne peut pas se contenter de garder ses écrits dans le tiroir.
Dans ses tiroirs,
ou alors
ouais.
On écrit un journal intime et puis on ne le fait voir à personne. C'est le propre du journal intime.
Moi, ou pas... un blog, maintenant, c'est
oui, mais là, tout le monde le lit.
Ah, bah oui, oui, là, tout le monde le lit, effectivement.
C'est encore une autre démarche.
Tout à fait. Est-ce que tu chantes toujours dans le groupe La Teigne?
Oui, de façon un petit peu plus sporadique, je dirais, parce qu'on a eu un petit peu moins de concerts, des répétitions un peu plus espacées, mais ça se fait toujours, oui.
Mais tu donnes toujours ta voix à ce groupe.
Oui.
Bon. Alors, comme je le disais, trois recueils de nouvelles. Alors, le premier, ça a été « Cours noir sans sucre » en 2005, aux éditions Lettres minuscules. Un recueil de nouvelles donc, qui a obtenu le prix de la nouvelle du Scribe Lozerte 2006. Hein, c'est la première année que Jacques Griffaut, de la librairie du Scribe de Montauban, organisait ce prix de la nouvelle. Et c'est toi qui as remporté. Donc,
en fait, il y avait eu deux autres éditions avant, mais qui étaient plus centrées à Montauban. Et voilà, depuis donc, 2006.
C'est à Lozerte.
Ça se passe plus à Lozerte, avec les gens qui s'impliquent. Voilà.
Donc, Cours noir sans sucre, c'était ton premier recueil de nouvelles et donc qui a été donc couronné par le prix de la nouvelle du Scribe. Et ensuite, la deuxième, d'ailleurs, tu étais venue nous en parler à page à page.
Oui.
Ensuite, le deuxième recueil, c'est Toute humanité mise à part aux éditions Quadrature, une maison d'édition belge, je crois.
Toujours belge, oui.
Voilà, toujours belge.
Plus que jamais.
Plus que jamais. Alors ça, c'était en 2006, donc un an après.
Oui.
Et donc, c'est un recueil de nouvelles qui a obtenu le prix de la ville de Balma en avril 2007.
Voilà.
Donc voilà, de nouveau primé,
voilà, un
autre recueil.
Un prix régional aussi qui m'a beaucoup encouragée.
Et puis donc, on arrive au troisième recueil, La collecte des monstres, en 2007. Alors lui, qui a été édité aux éditions Gallimard, carrément dans la cour des grands, on va dire. Là, c'est carrément la maison d'édition.
Oui, c'était la réalisation inespérée d'un rêve que j'avais même pas envisagé de faire d'ailleurs. Mais bon, c'est toujours la bouteille à la mer. On envoie des manuscrits aux gros éditeurs. Et puis bon, j'avais l'habitude de recevoir des refus. Cette fois-ci, ça a été... accepté, donc c'est vrai que c'était une belle surprise.
Et donc tu es venu aussi nous en parler d'ailleurs à page, et donc tu réitères chez Gallimard aussi pour ton premier roman, parce que là donc tu as quitté momentanément les nouvelles pour nous offrir un roman. Donc chez Gallimard, qui a donc pris aussi cet autre style d'écriture, quoi, parce que de la nouvelle.
Alors
c'est,
le style
ça change,
d'écriture,
le style n'en est toujours
parler,
le même,
peut-être
mais...
pas, mais en tout cas effectivement dans l'esprit de l'écriture était très différent pour moi. Écrire un roman, c'était
de longue haleine.
Oui, voilà, il fallait que je me mette dans un autre état d'esprit vraiment que dans les nouvelles. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à démarrer au départ et puis bon, j'ai réussi à le faire quand même.
Oh bah, il est très réussi, moi j'ai beaucoup aimé. Alors on retrouve bien ton style, hein, de toute façon. Hein. Je veux dire, il est noir. Hein.
Oui, on peut dire
il
ça.
Il est un peu noir. Ah oui. Moi je ne l'ai pas lâché, hein. Je veux dire, je l'ai lu d'une traite. À chaque fois je voulais savoir la fin, il y a encore un chapitre, mais c'est vrai qu'il est, prenant. Hein. Il est très très prenant. On n'en sort pas indemne. Hein.
C'est ce que m'ont dit un certain nombre de lecteurs.
Ah
aussi.
Ben voilà, ben je le confirme. Ça m'a fait le même effet à moi aussi. Alors en prélude à ce roman, il y a une jolie phrase d'ailleurs de Francis Picabia que je vais lire. Ce sont les mots qui existent, ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Le mot lumière existe, la lumière n'existe pas. Alors c'est vrai que quand on le dit comme ça, bon, c'est certes une jolie phrase, mais ça prend tout son sens quand on a lu tout le livre, tout le roman.
Oui.
On revient d'ailleurs à relire cette petite phrase.
Elle est placée là un petit peu exprès.
Oui, j'imagine bien. Donc c'est une phrase voilà, qui éclaire vraiment tout le roman une fois qu'on l'a terminé. Et donc c'est l'importance, ben, comme on va en parler là, en détaillant un peu le roman, l'importance des mots et puis d'exister.
Voilà,
c'est
l'existence. C'est une question que je posais aussi dans mes nouvelles sous une autre forme, mais qu'est-ce que l'existence et comment la passe-t-on jusqu'à ce qui nous attend tous de manière inéluctable, la mort. Donc exister entre la naissance et la mort, c'est quoi finalement?
C'est une question qui t'est importante?
Oui, c'est une question que je me pose depuis très très longtemps et que je me pose à travers l'écriture essentiellement et... Bon, après, de manière moins noire dans la vie, heureusement, j'essaie de vivre sans passer mon temps à me poser ce genre de problème en permanence.
Mais... D'ailleurs, quand on te voit, t'es toute souriante, toute...
Voilà, oui, ça va, je suis assez plus optimiste que dans mes livres,
tout
heureusement.
Tout à fait. C'est un peu quelque
part... Je me défoule
part,
dans
bah,
les livres.
Tu défoules dans tes livres. Alors, tu devrais voir quelqu'un donc, aux éditions Gallimard. Donc, premier roman, 38 chapitres. C'est 38 chapitres très forts, hein, tous.
Oui, assez serrés, on va dire. Mm-hmm. C'est un livre qui est relativement court, enfin un roman qui n'est pas un roman fleuve.
Il fait 166 pages.
Voilà, ça doit être à peu près
roman,
ça.
C'est...
Ah, mais je ne me voyais pas passer de la nouvelle à un roman de 400 pages tout de suite. ça ne me paraissait pas tout à fait possible. Donc voilà, en plus j'ai fait des chapitres très courts, donc j'ai gardé cette espèce
c'est pour ça qu'il y en a autant.
De forme d'écriture de la nouvelle quand même à l'intérieur des chapitres.
Tout à fait. Et donc moi j'ai trouvé que c'était un peu quand même comme une mise en abîme originale un peu.
Oui,
il y a
une ou plusieurs mises en abîme dont la principale est révélée à la fin, mais qui ne se clôt pas complètement. Parce que moi, la fin n'est pas totalement. Une fin n'est pas totalement fermée. Et ça reste ouvert à pas mal d'interprétations.
Tout à fait. Et donc, comme je disais, on retrouve bien ton style, le style qu'on aime de tes recueils de nouvelles et qu'on retrouve dans ce roman, même s'il est écrit en tant que roman. Donc, les phrases sont toujours aussi bien acérées, bien placées. Et puis, elles sont courtes hein, aussi. Tu as conservé, comme tu le disais, un peu ce style de la nouvelle, des choses courtes.
Oui, une espèce de tension dans l'écriture.
Oui.
Essayer de rester dans l'essentiel et aller direct au fait.
Au concentré, c'est-à-dire, du concentré.
Voilà, j'avais pas du tout envie de me perdre dans... Enfin, je voulais pas faire un roman qui soit quelque chose d'étiré, d'étalé, où je me serais écoutée écrire en quelque sorte. Parce qu'en fait, quand j'écris, c'est souvent aussi une voix dans ma tête.
Ah.
Donc j'avais pas du tout envie de partir dans des longueurs. Je voulais, comme dans les nouvelles, continuer d'aller directement...
À
la narration, à l'essentiel, à l'émotion. Et donc voilà, cette forme d'écriture, j'ai réussi à la garder, mais c'était pas gagné au départ.
Oui, c'est plus difficile, ça t'a demandé un exercice de, entre guillemets,
oui,
de
il a fallu que je construise, il a fallu que je construise, parce qu'un roman, enfin, les nouvelles, quand je les écrivais, je me posais pas la question de les construire, je commençais à écrire, je ne savais pas du tout où j'allais la plupart du temps, mais je savais que ce serait fini dans peu de temps, donc j'allais arriver assez vite quelque part. Pour un roman, c'était pas tout à
oui,
fait possible.
Oui, c'est plus difficile, voilà, c'est sûr. Donc ce premier roman, donc, comme je disais, qui est assez noir et qui ne laisse pas indifférent, hein, loin de là. Alors, le suspense est bien présent, justement, on parle des courtes phrases certaines fois, et donc c'est, le suspense est bien là. On a, c'est pour ça qu'on ne le lâche pas, on a envie de savoir la suite, et on s'enfonce un peu dans une atmosphère un peu stressante. Hein.
Oui, il y a beaucoup on va vers l'enfermement, une espèce de huis clos, et puis une question qui reste ouverte jusqu'à la fin sur un personnage. Donc,
c'est un peu à la lisière d'une certaine folie, quoi, un peu. Hein.
Oui, ça parle beaucoup de folie, quand même.
Oui,
c'est,
ça va.
C'est une question qui me taraude aussi. Comment va-t-on vers la folie? Comment la vit-on quand on la sent présente en soi? Ou quand on
oui,
en sent
vrai.
Les manifestations C'était intéressant aussi à explorer.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, on en ressort. Moi, j'étais un peu sonnée, hein, abasourdie.
Je suis désolée.
Non, mais c'est dans le bon sens. Hein, dans le sens, c'est un livre, voilà. Moi, il ne m'a pas laissée indifférente du tout. C'est mieux, c'est bien. C'est plutôt,
oui, je trouve
positif.
Ça aussi plutôt positif.
Ah,
je
oui,
prends
oui.
ça comme un compliment. Parce que,
ah, oui,
bon, un livre
fait,
qu'on referme, on l'oublie
éteint.
Aussitôt.
Ah, bah, exactement, non, ça en éteint. Mais c'est vrai qu'on ressort, on est sonnée, quoi. Hein, c'est... Et donc, pour donner une idée un petit peu à nos lecteurs, je pense qu'il convient de lire la quatrième de couverture. Hein. Mmh. Alors, je lis. Dans la vie de Sarah, il y a un bol rouge, des carnets pour écrire, trois médecins, une amie de toujours, quelquefois Julien, et beaucoup de questions. Dans la vie de Sarah, pas de place pour Janvier, qui pourtant s'y installe, et Vincent, tout le reste. Dans la vie de Sarah, il n'y a plus que Janvier. Un jour, c'est sûr, elle le tuera. Ça, c'est vrai, vu comme ça, ça. Bon, c'est ça. Oui, nous qui avons lu le livre,
on comprend après.
Mais on comprend après, il faut le lire.
Oui, mais la quatrième de couverture, en fait, mon éditeur m'a demandé de la rédiger, alors que.
Ah, c'est toi
moi,
qui l'as
rédigé. Pensais. Pardon. Je pensais que c'était les éditeurs qui rédigeaient les quatrièmes de couverture. Bon, il s'avère aujourd'hui que pour mon. Quatrième livre, j'ai toujours écrit les quatrièmes de couverture et pour celui-ci en particulier, c'était très difficile parce que je ne voyais pas du tout comment résumer le livre.
Souvent,
il y a des espèces de résumés derrière les romans, on comprend un peu de quoi il s'agit. Là, c'était très difficile de, d'écrire quelque chose sur ce livre sans prendre un certain parti ou sans résumer et dévoiler du coup des choses que je n'avais pas du tout envie de dévoiler.
Tout à fait, il fallait laisser le.
Donc voilà, je suis restée très elliptique et. Ça donnait ça.
Eh ben non, mais elle est très bien. Je veux dire, une fois qu'on a lu le livre et qu'on relit aussi la quatrième de couverture, parce que quelque part, c'est ça, hein, les trois, le bol rouge, les trois médecins, Julien.
Oui, c'est juste quelques éléments dans une vie.
Voilà, tout à fait. Alors, les personnages, justement, on va en parler. Donc, le personnage principal, c'est Sarah, qui est trentenaire, qui est secrétaire médicale. Hein, donc, voilà l'explication des trois médecins. D'ailleurs, des patrons, je trouve, très, très sympas. Hein.
Oui,
je pense que
gentil.
Beaucoup de secrétaires médicales aimeraient avoir des patrons aussi sympas. Hein. J'ai trouvé que... Tu les as fait sympas, c'est...
Oui, plutôt sympa. Mais bon, on ne peut pas faire tous les personnages complètement noirs, non plus.
Ah oui, non.
Non. Voilà, ils ont leur humanité. Et...
Tout à fait, ils sont
bon, après,
très
humains. Après, je n'ai pas exploré ces personnages vraiment
non,
à fond.
Non,
donc ça reste des personnages de second plan, mais,
tout à fait, mais
des espèces de décors. Et puis, la fin fait aussi que les personnages sont peut-être un peu caricaturaux.
Oui,
donc,
oui,
toi
aussi.
Toi qui as lu la fin.
Oui.
Et que ça peut être normal. C'est aussi un parti pris pour certaines choses.
Tout à fait. Donc, il y a Julien aussi, qui est un personnage important. Alors, c'est le mari de sa meilleure amie, hein, Sarah, la meilleure amie de Sarah. Et donc, une amie de longue date, hein, puisqu'elles étaient copines de fac. Donc, voilà, c'est son mari, c'est Julien. Après, donc, justement, son amie de longue date, eh bien, elle s'appelle Fatia. Elle est donc maman de trois enfants. Voilà, et donc, mariée à Julien. Donc, c'est les trois principaux personnages.
Oui.
Et on en arrive au quatrième, qui a son importance, bien évidemment. Janvier. L'homme en costume sombre et au chapeau démodé.
Oui, voilà, il a une drôle de tenue.
Oui, voilà, grand, voilà, tout en noir. Et donc, voilà, on n'en dira pas plus, hein, parce que bon, il faut aussi laisser...
Disons que c'est le personnage qui s'installe sans être vraiment invité et celui dont on a le plus de mal à se débarrasser.
Ah oui, 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 effectivement. Alors l'histoire, on va quand même la raconter un petit peu. Donc ça se passe dans notre ville rose.
Ça se passe à Toulouse.
Oui, ça se passe à Toulouse. C'est
oui, j'aime
une première
bien,
fois, ça.
J'aime bien situer... J'avais déjà fait des évocations de Toulouse dans quelques nouvelles,
dans
mais
quelques
c'était
nouvelles.
Vraiment des évocations. Mmh. Mais j'aime bien situer ce que j'écris dans des endroits que je connais. Et là, sur un roman, sur la durée, je me suis dit, mais bon, Toulouse, pourquoi pas? Je ne suis pas obligée d'aller mettre... mes personnages à Paris, par exemple, parce qu'il y a déjà suffisamment d'auteurs qui le font, vu qu'ils y habitent.
Mais toi, tu y as habité aussi. Hein.
Oui, j'ai habité 3 ans à Paris, mais je ne voyais pas spécialement l'intérêt, parce que finalement, le décor urbain en lui-même a une petite place. C'est un décor en fond, mais ne prend pas une part énorme dans tout ça. Donc, je me suis dit que Toulouse, c'était un très bel endroit pour situer un roman aussi.
Bah oui, bah, moi
et puis
ça m'a bien
en parler
plu,
en connaissance de cause.
Voilà, tout à fait. Et puis ceux qui te lisent et qui te liront, eh bien, ils vont se... voilà.
Oui, il y a des endroits que je cite et qui existent.
Et voilà, tout à fait. Donc, ils vont les reconnaître. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de lire dans un livre voilà, des endroits que nous-mêmes
oui, qu'on fréquente.
Ouais, ouais. Alors, au premier abord, donc, c'est une histoire classique, en général, enfin, on peut dire entre guillemets, hein, un couple avec enfant, une maîtresse...
Hein, voilà, une maîtresse, voilà. Un amant,
voilà, une maîtresse,
un mari
amant,
infidèle,
voilà,
une amie
femme
infidèle.
Trompée, voilà, une amie trompée.
Voilà, un triangle un peu classique et presque caricatural.
Tout à fait. Et puis quand même la présence de l'écriture. Hein, comme il y a la présence de l'écriture d'emblée dans
oui,
ce roman.
Oui, il y a ce rapport à l'écriture dès le départ, puisque Sarah est secrétaire médicale, mais c'est presque une couverture. Enfin, on ne sait pas quelle activité est la couverture de l'autre, en fait. Parce que Sarah écrit, et tout le monde sait qu'elle écrit, et elle passe énormément de temps à le faire, mais elle se cache pour le faire, et surtout, elle ne fait rien lire à personne. Donc, ça fait un peu rire ses amis, et on ne la prend pas très au sérieux
voilà,
de ce côté-là.
Si vrai,
et en même
quoi.
Temps, on la trouve un peu bizarre de s'adonner à l'écriture de cette manière. Donc, et alors, pour elle, c'est vraiment très, très sérieux, et c'est la voie par laquelle elle se cherche et par laquelle elle se pose toutes les questions sur l'existence, justement, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Donc, ça, on pourrait dire que l'écriture pourrait lui servir de thérapie ou alors, au contraire, l'emmener
voilà,
dans
c'est...
un, vers la folie.
La question se pose comme ça et il y a peut-être un point de bascule dans le roman qui...
qui donnera,
qui donnera
la réponse. Alors, le titre, pareil, hein, n'est pas anodin, comme la phrase
Jamais.
De Picabia au départ. Le titre n'est pas anodin, c'est toujours pareil. C'est une fois qu'on a lu le roman, ben voilà, on revient au titre également. C'est une phrase qui est prononcée, en fait, dans le roman, et plus vers la fin que vers le début,
oui.
Par l'amie de Sarah, donc, qui s'appelle Fatia. Elles sont dans un café à la Rotonde.
Hein. Voilà.
Voilà, pour ne citer que cet endroit de Toulouse. Et voilà, et elle lui dit, tu devrais voir quelqu'un. Et d'ailleurs, Sarah lui répond, mais je vois quelqu'un.
Oui, je n'arrête pas.
Je n'arrête pas de voir quelqu'un. Voilà. Donc le titre est important aussi, il a été choisi.
Oui, j'ai choisi ce titre. Alors au départ, ça devait s'appeler Angle mort, mais comme c'est un titre qui, pour moi, convenait bien au roman, mais qui est déjà pris pas mal de fois par ailleurs, j'ai décidé de changer et c'est ce qui m'est venu tout de suite. Et qui a au départ été refusé par l'éditeur.
D'accord. Mais moi, je trouve que je préfère celui-là. Tu devrais avoir quelqu'un
aussi,
plutôt qu'Angle mort. Hein.
C'était vraiment.
Ah, oui, oui, oui.
Et puis bon, voilà, c'est vrai que ça a un double sens, voire plus, dans le livre.
Tout
et
à fait.
J'aime bien cette idée que,
ah, oui, oui, oui.
Que les titres ne soient pas univoques. C'est déjà une méthode que j'utilisais dans les nouvelles.
Donc tu écris d'abord l'histoire et après en fait
le titre vient après. J'ai souvent un titre provisoire mais bon là c'était Angle mort parce que ça m'était venu comme ça. Angle mort apparaît aussi dans le roman mais voilà c'était en attendant de trouver mieux.
Mais là je trouve
et
que
après,
le titre
ça
est vraiment
imposé.
Bien choisi. Tu devrais voir quelqu'un la phrase de son ami voilà une fois qu'on a lu le livre.
Ça interpelle ça... beaucoup les
ah, oui,
les
oui.
gens souvent dans voilà quand je signe dans les salons ou ailleurs. il regarde un petit peu le titre et puis souvent j'ai droit à un petit coup d'œil offusqué, genre mais qui vous êtes pour vous permettre de me dire ça?
Oui, parce que ça fait un peu, on a tous entendu cette phrase, pas forcément pour soi-même, mais on l'a tous entendu.
Oui, voilà, c'est très lié à des états de déséquilibre psychologique,
oui,
on va
tout
dire.
À fait. Tu devrais voir quelqu'un, je pense que tu ne vas pas bien, quoi. Ouais. Ça fait un peu ça. Mm-hmm. Alors c'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'après avoir lu la dernière page de ce roman, eh bien, on revient inévitablement au premier chapitre.
Oui.
Alors ça, voilà, on revient à la phrase de Picabia, on revient bon au titre, mais on revient, moi j'ai relu le premier chapitre. On dirait que c'est fait là aussi exprès, entre guillemets. Tu l'as peut-être pas
c'est
fait
là...
exprès, mais...
Si, parce qu'en fait, ce premier chapitre n'était pas un premier chapitre au départ. Donc,
ah d'accord.
Au départ, j'avais ouvert le livre sur ce qui est le chapitre 2. En commençant
d'accord.
l'histoire de Sarah. Mm-hmm. Et puis, j'ai construit ce roman. Je ne savais pas exactement quelle allait être la fin non plus. Donc, j'ai construit autant
c'était
que possible.
C'était
une mystère
pour toi aussi.
Oui, mais j'aime bien cette idée de me surprendre moi-même et de dénouer les choses à la fin en me disant, il n'y a plus qu'une seule, une ou deux issues possibles. Je vais prendre celle qui est la moins envisageable et, parce que de toute façon, c'est celle qui ira le mieux. Et pour moi, donc, voilà, ça s'est fini comme... bon, je ne vais pas dire comment dans le roman, sinon c'est un
peu... Ah bah non, non,
non. Il ne faut plus le lire après. j'ai été obligée de réécrire ce qui pour moi était un prologue, mais que l'éditeur a appelé chapitre 1.
D'accord.
Parce que ça devait se boucler comme ça. Il fallait boucler une boucle.
Ouais, ouais. Et ben c'est ça. C'est tout à fait ce que j'ai marqué dans mes notes. La boucle est bouclée, tu vois. C'est tout à fait ça. Donc, on relit le premier chapitre après avoir lu la dernière page du roman. C'est quasi inévitable. On revient au premier chapitre. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, donc je le conseille vraiment vivement. Tu devrais voir quelqu'un chez Gallimard d'Emmanuel Urien. Alors, forcément, la question suivante qui arrive est inévitable elle aussi. Tes projets, un nouveau roman ou tu vas revenir vers les nouvelles?
Alors, je viens de finir un recueil de nouvelles.
D'accord.
Donc, qui va passer chez des éditeurs parce qu'il est un peu atypique et a priori Gallimard ne devrait pas l'éditer.
Ah.
Donc, c'est une ouverture vers d'autres possibilités,
tout à fait,
on va dire.
Tout à fait.
Puis bon, les nouvelles ont toujours un peu mauvaise presse. Donc,
c'est bien dommage,
c'est toujours plus difficile de les faire paraître que les romans. Je commence aussi un roman qui utilisera peut-être un des personnages de Tu devrais voir quelqu'un. Parce
d'accord.
que j'aime bien l'idée de...
D'avoir un personnage qui revient dans...
C'est pas une idée de personnage récurrent, parce qu'on va sortir complètement de l'histoire de Tu devrais voir quelqu'un. C'est simplement la vie d'un de ces personnages qui va être exploré. Alors je me pose encore beaucoup de questions par rapport à ce que j'écris dans Tu devrais voir quelqu'un, puisque la fin fait que je peux pas utiliser ces personnages de manière très classique. Mais je pense à ça. Et puis sinon, j'ai des tas d'autres projets.
Merci Emmanuel. On se revoit très bientôt alors.
Merci Claire.
Avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Restez fidèles à Radio Occitanie à Adisiaz. Boop, boop, be doop.